Émission de littérature avec ce soir en direct par téléphone Bernard Lahire que je questionne à propos de son livre Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire. Bonsoir Bernard Lahire. Merci beaucoup d'être en direct par téléphone avec nous. Alors ma première question va paraître un peu brutale. Quelle est votre méthode que vous employez pour vous pencher sur le cas Kafka, qui représente à peu près les 100 premières pages de votre livre ?
Oui, elle est brutale dans le sens où elle est très difficile à résumer en très peu de mots. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rentrer dans la biographie de l'écrivain, en repartant de ses expériences familiales notamment, en remontant à ses expériences scolaires, à ses expériences professionnelles, à ses expériences sentimentales, etc. Bon, il est mort assez jeune, il est mort à 41 ans de tuberculose, donc c'est quelqu'un qui a une vie assez courte. Et en reconstruisant sa biographie et les expériences les plus marquantes de sa biographie, j'ai essayé de comprendre mieux les textes, l'œuvre de Kafka, dans la mesure où cette œuvre apparaît comme une manière cryptée, d'une certaine façon, codée, de parler en permanence de lui-même, si on peut dire, mais surtout des problèmes d'existence qu'il a pu vivre, des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux. Bref, la méthode, c'est une méthode qui consiste à articuler systématiquement les éléments de sa vie et des contextes familiaux, scolaires, etc., avec les éléments de son œuvre, qui sont des manières de transposer les problèmes vécus dans la vie réelle.
Alors, ça, c'est le point de départ. Dans vos 100 premières pages, vous appuyez sur de nombreux travaux sociologiques, notamment sur le cas Flaubert par Pierre Bourdieu. Vous en faites une analyse plutôt critique et vous partez de cette base-là pour votre étude sociologique sur Kafka, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans la manière dont Bourdieu traite le cas Flaubert, je pense, les limites d'une analyse en termes de champ. C'est-à-dire que Bourdieu, concrètement, se situe par rapport à Sartre, à l'analyse que Sartre a menée dans l'idiot de la famille, qui était une tentative de compréhension de l'œuvre de Flaubert à partir d'éléments biographiques. Bourdieu en fait, disons, son adversaire principal, et du coup essaye de réduire la vie de Flaubert à sa position dans le champ littéraire. Pour lui, c'est la position dans un champ, et donc en l'occurrence dans ce champ littéraire, qui va déterminer à la fois les choix stylistiques de Flaubert, mais ses choix thématiques. Bref, l'ensemble de l'œuvre est déterminé par serait déterminé par la position dans cet univers structuré de positions qu'on appelle un champ. Je pense que Bourdieu là a été un peu victime de sa concurrence ou de sa compétition avec Sartre. Je pense qu'il a un peu trop mis de côté la question de la biographie. En réduisant un auteur à une position dans un champ, alors qu'un auteur, ça préexiste au champ, évidemment, ça ne naît pas dans un champ, ça naît dans une famille, c'est produit dans des contextes de socialisation divers, dont effectivement le premier est l'univers familial. Et je pense que Sartre avait raison, était d'une certaine façon presque plus sociologue que Bourdieu sur cette question-là. Voilà, donc j'ai un débat avec Bourdieu sur ce point-là. Pour comprendre une œuvre, est-ce qu'on peut réduire l'auteur à sa position dans l'univers littéraire, ou est-ce qu'il faut comprendre, reconstruire des éléments qui préexistent à l'univers littéraire, voire qui existent parallèlement à l'univers littéraire, puisque dans le cas de Kafka, Kafka est un auteur à double vie, comme je le dis souvent, c'est-à-dire un auteur qui a un second métier, qui est même son seul métier, le métier de juriste dans une compagnie d'assurance. Et donc il vit en permanence une double vie. Le matin jusqu'à tôt dans l'après-midi, il travaille dans cette compagnie d'assurance, et puis l'après-midi, il se repose, et le soir, il écrit de la littérature. Je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de cette expérience parallèle par Kafka dans un univers professionnel qui n'a rien à voir avec la littérature. On ne peut pas faire fi de cette réalité-là pour comprendre ce qu'il écrit et la manière dont il écrit.
Oui, pour aller dans votre sens, et pour je vous cite, vous écrivez « Kafka écrit pour démêler les chevaux de ce que j'appellerais sa problématique existentielle, et il se révèle davantage tendu vers son travail d'élucidation de ses problèmes et de connaissance de soi qu'obnubilé par les autres courants littéraires ou les autres auteurs auxquels il ne réagit qu'en rapport à ses propres questionnements personnels. » Vous allez loin là-dessus, sur la question de la biographie.
Oui, mais je pense que là, il y a une dérive de l'analyse en termes de champ qui est finalement assez proche de l'analyse en termes d'intertextualité. C'est-à-dire que là, il y a une conception de la littérature qui sépare les différents analystes hein, de la littérature. Pour Bourdieu, le comprendre un auteur, c'est comprendre sa position dans un champ et comprendre les luttes de et les concurrences entre auteurs. Concrètement, Flaubert, pour lui, ne peut se comprendre que dans ce qui le sépare des autres et dans son jeu de distinction par rapport aux autres. Il y a une lutte et une concurrence permanente entre auteurs. Pour certains littéraires, les textes ne peuvent être compris que par une analyse interne de ceci. On ne s'intéresse pas à l'auteur, à sa position, donc la position de Bourdieu n'est pas particulièrement appréciée non plus dans un certain nombre de secteurs des études littéraires, pour ces raisons-là, parce qu'on regarde uniquement le texte. Moi, je pense qu'on ne peut ni réduire une œuvre ou comprendre une œuvre en s'en tenant à une lecture interne de l'œuvre, mais on ne peut pas non plus réduire l'œuvre, sa forme, ce qu'elle raconte, à un effet de positionnement par rapport à d'autres auteurs. Moi, je pense que Kafka rentre en littérature pour régler un certain nombre de problèmes, pour parler, pour élucider un certain nombre de questions qui le taraudent, et qu'effectivement, à partir de ce projet créateur, il est bien amené effectivement à se confronter à des écrivains, mais il ne se confronte pas à des écrivains, ou il n'écrit pas ce qu'il écrit juste pour se confronter à d'autres écrivains. Il écrit ce qu'il écrit étant donné la vie qu'il a eue. Voilà, c'est une différence assez importante par rapport à l'analyse que Bourdieu proposait en termes de position dans le champ littéraire.
Alors on entre là de plein pied dans la discipline littéraire, et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que la discipline sociologique peut nous apprendre sur Kafka par rapport à la discipline littéraire?
Alors, moi je suis pas un critique absolu des études littéraires, hein. bien au contraire, il y a de merveilleuses analyses littéraires de Kafka. La question, c'est une question assez vaste, hein, qui ne se pose pas que dans le cas de Kafka ou d'ailleurs que dans le cas des auteurs en littérature. Peut-on comprendre une œuvre indépendamment de la prise en compte des expériences de l'auteur qui produit cette œuvre? C'est une question qui est assez cruciale, me semble-t-il. Un auteur comme Roland Barthes, qui me semble être assez représentatif d'un certain nombre de positions dans les études littéraires, pensait que l'auteur devait être exclu. La vie de l'auteur, tout ce qui était extérieur au texte, devait être exclu pour se concentrer sur des aspects textuels. Alors, l'analyse sociologique rappelle simplement que le texte ne passe pas par l'auteur par hasard. Enfin, ce n'est pas juste une sorte de composant par lequel passerait de l'énergie qui produirait du texte littéraire. C'est bien un auteur avec les expériences qu'il a eues, avec la formation qu'il a eue, avec sa formation scolaire, sa formation professionnelle, avec ses expériences familiales, sentimentales, etc., qui écrit ces textes. Et du coup, on ne peut pas... on a la possibilité, je pense, de faire une lecture historique ou sociologique des œuvres à partir de l'étude systématique des problèmes qui sont à l'origine des œuvres en question. Voilà, donc il y a une volonté du côté de la sociologie de faire le lien le plus systématiquement possible entre des schèmes d'expérience dans la vie réelle de l'auteur avec des mises en scène littéraires, avec des intrigues littéraires, avec des questions, des questionnements que déploie l'œuvre littéraire.
Alors prenons un exemple concret chez Kafka. La formation juridique de Kafka, vous dites, explique la formation juridique de Kafka pèse sur son écriture, en même temps que son ascétisme, son style ascétique. Comment est-ce que la sociologie entre là-dedans ?
Alors, il y a plusieurs choses. Si on regarde un petit peu le style de vie de la famille Kafka, en regardant comment vivent les parents de Kafka et comment Kafka a été élevé dans sa famille, on se rend compte que il y a une dimension ascétique extrêmement forte. Son père est un bourgeois de première génération. Il était issu d'un milieu extrêmement pauvre et a réussi à monter un commerce et à devenir un bourgeois assez aisé à force de travail assez acharné, avec donc une sorte de concentration sur le travail, l'investissement dans le magasin qu'il possédait et dans lequel il travaillait avec son épouse et avec des employés, bien sûr. Et on voit comment cela a imprimé un style de vie tout à fait ascétique, des manières de vivre qui sont extrêmement régulières, ascétiques. Ça peut produire des effets d'avarice chez Kafka, qui dit souvent qu'il est assez avare et qu'il n'aime pas dépenser son argent, etc. Et ça a des effets dans de nombreux domaines de son existence, dans sa la manière dont il se nourrit. Il mange très très peu, il est très maigre, c'est quelqu'un qui a en permanence été presque sous-alimenté et avait une politique d'alimentation assez drastique. Il pratiquait du sport en permanence pour se tenir en forme. Il avait une conception même de l'appartement, de la maison qu'il pouvait habiter, qui était une conception très ascétique, considérant que tout devait être extrêmement modeste, extrêmement simple, ça devait être fonctionnel, mais surtout pas luxueux, etc. Et il se trouve que ce style se retrouve dans son écriture. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est que la plupart des analystes des œuvres de Kafka ont souligné ce travail permanent d'assèchement de la langue. C'est une langue qui se simplifie progressivement. Quand on regarde les brouillons de Kafka, on voit comment, partant de phrases un peu compliquées, il peut les réduire, il peut enlever des adjectifs, il condense son écriture, il réduit son écriture, il l'amaigrit. Et il a un programme d'amaigrissement de son écriture en permanence pour être au plus juste, au plus précis, et ne pas être dans l'excès, par exemple, de métaphores qu'il déteste dans les textes littéraires. Or, ce style littéraire n'est pas sans lien avec le style familial, plus généralement, quand on le reconstruit à travers l'étude des conditions de vie familiale de la famille Kafka, mais aussi ça a eu des effets dans son parcours scolaire, puisqu'il a fait le choix d'études universitaires qui l'ont mené vers le droit, et le droit est une école d'ascétisme assez incroyable. Certains auteurs français ont parlé de Stendhal, notamment, d'une écriture, de la volonté d'écrire dans le style du code civil. C'était l'idée que le droit était une école de, de, de précision, de rigueur, d'assèchement de la langue, etc. Et Kafka écrit effectivement en littérature avec des habitudes d'écriture qui sont aussi des habitudes d'écriture de juriste. Il y a même des aspects de son écriture qui sont très directement liés à la formation juridique, puisque il raconte des histoires un peu comme on raconte, comme on dresse des procès-verbaux, de la manière dont on peut raconter un cas juridique, c'est-à-dire qu'on dépouille le cas de plein de singularités, de détails inutiles, d'anecdotes, pour en faire une sorte de cas d'école et traiter juridiquement le cas. Or, Kafka passe son temps à faire ça dans ses textes.
Ce que vous dites est assez saisissant. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas pour des raisons intrinsèques à la littérature que Kafka dispose de son style littéraire.
Oui, oui, oui. Alors, évidemment que ça a des conséquences littéraires et ça prend un sens littéraire. On ne peut pas dire Kafka ne ferait pas quel acte littéraire lorsqu'il écrit Le procès, Le château ou La métamorphose. C'est bien la littérature et son problème est bien un problème littéraire. Mais pour comprendre la manière dont il traite ses problèmes du point de vue littéraire, il faut comprendre que sa plume est guidée par des expériences ou par des styles qui ont été préformés dans d'autres espaces que le monde littéraire. Sinon, on ne comprendrait pas qu'au même moment, dans le même univers, certains écrivent avec, par exemple, des excès de métaphores qui énervent considérablement Kafka. Quand il lit un certain nombre d'auteurs néo-romantiques, extrêmement lyriques, il ne supporte pas ça parce qu'il a l'impression d'une écriture extrêmement chargée, qui veut faire beau, alors que lui pense que la littérature doit viser à une certaine vérité et donc à une certaine simplicité dans la manière dont les choses sont écrites. Donc c'est bien une œuvre littéraire et un acte littéraire qu'il commet, mais cet acte est porté par des dispositions socialement formées dans son milieu familial, puis dans son expérience scolaire, et notamment cette expérience de formation de juriste est cruciale, à mon sens, pour comprendre la manière dont il écrit.
Oui, c'est étonnant parce que Kafka est quand même quelqu'un qui a décidé de se retirer de sa vie ou des bonnes choses de la vie pour faire œuvre dans la littérature. Or, vous dites, c'est cela même qui fabrique aussi, quelque part, l'œuvre de Kafka.
Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que l'acte qui consiste à se retirer dans l'univers littéraire est un acte tout à fait social qu'il commet par rapport notamment à son père. Ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est le fait que Kafka, d'une certaine façon, investit la littérature parce qu'il n'a pas pu reprendre l'héritage paternel. Et d'ailleurs, une grande partie de son problème est liée à son père. Son père aurait rêvé d'avoir un héritier qui accepte de reprendre le magasin familial, de le développer, etc., comme beaucoup de patrons de l'industrie et du commerce ou de grands commerçants qui souhaiteraient que leurs enfants puissent reprendre leurs affaires, les faire prospérer, etc. Kafka n'a pas eu la possibilité d'hériter pour des raisons extrêmement compliquées de brouillage de la transmission de l'héritage culturel familial et l'héritage paternel notamment. Et il fait un pas de côté vers la littérature pour se sortir de cette situation conflictuelle avec son père, et il met en scène en permanence la figure du père dans ses textes. Donc ce retrait dans le monde littéraire est une manière de se positionner par rapport à son père, par rapport au monde bourgeois, au monde des affaires, etc. C'est un acte social.
Je voudrais prendre un autre exemple concret où vous avez des résultats qui me semblent importants dans votre livre. Vous expliquez la difficulté de Kafka à écrire des romans plus longs que la forme courte qui semble mieux lui convenir. Justement, comment expliquez-vous cette difficulté de Kafka à écrire des textes plus longs qui formeraient des romans ?
Alors, c'est, c'est au croisement de nombreuses contraintes. Il n'y a pas une seule raison, mais il y a une série de conditions qui font qu'il est effectivement amené à écrire plus facilement des nouvelles relativement courtes que des romans. Bon, il faut savoir déjà ce qu'on ignore souvent quand on lit Kafka, puisqu'aujourd'hui tout dans l'œuvre de Kafka, dans les manuscrits de Kafka, a été publié, mais Kafka n'a publié aucun de ses romans, de ses tentatives de romans, dans sa vie. Donc, ce sont des publications posthumes. Ce sont des publications qui ne sont pas achevées. On a des textes qui sont en friche, dont d'ailleurs les commentateurs s'interrogent sur la place des chapitres, etc., qui ont été décidés par Max Brod, notamment son ami, qui a mis ces textes en publication. Donc on a quelqu'un qui, visiblement, avait des problèmes avec la forme longue. Alors, une des raisons prosaïques de ses difficultés avec la forme longue, c'est le fait qu'il disposait de très très peu de temps. Ça, c'est la première des choses. Il était contraint par son premier métier, et donc il préférait les formes courtes. Une autre condition de cette préférence pour les formes courtes, c'est le fait que Kafka vivait la littérature comme un acte de création extrêmement douloureux et nécessitant un effort sur lui-même considérable. Ce qui fait qu'il était plutôt dans l'acte créateur continu. Par exemple, il a écrit le verdict en une seule nuit. Et quand il a achevé l'écriture du verdict, il écrit dans son journal que c'est comme cela qu'il veut écrire, que ça doit sortir de lui en un seul jet. Alors bien sûr, après, il reprend son texte, mais l'ensemble de son texte est là, à la fin de son effort créateur. Donc ça, c'est une autre caractéristique. Et puis, il a des caractéristiques formelles. C'est-à-dire, Kafka travaille avec des images en permanence. Il travaille sur le procès il met en scène, par exemple, dans le procès, son sentiment de culpabilité. Et donc, il prend l'image de quelqu'un qui est arrêté. C'est évidemment pas une vraie arrestation. On sait tous que le procès commence avec Joseph K. qui est arrêté alors qu'il est innocent. Il est arrêté par des personnes qui lui disent « mais vous pouvez continuer à vivre normalement », ce qui est quand même une arrestation un peu bizarre. Il n'est pas convoqué au tribunal, mais il s'y rend et on lui dit qu'il est en retard alors que personne ne l'a convoqué. Tout ça semble parfaitement absurde. Mais c'est parce que Kafka rappelle en permanence au lecteur que ça n'est pas un vrai procès. Il est obligé de filer sa métaphore jusqu'au bout, c'est-à-dire que pour pouvoir parler de son sentiment de culpabilité et de son problème en permanence de se sentir coupable de quelque chose, et c'est évidemment dans le rapport à son père qu'il se sent coupable, il file une métaphore et du coup sa littérature est une sorte de mécanique de haute précision. Il est obligé de conserver cette image, cette métaphore, tout au long d'un texte. Et ça devient extrêmement difficile quand le texte est long. Donc on voit que Kafka arrive à faire ce travail beaucoup plus facilement sur des textes courts parce que c'est un travail de haute précision où les personnages ont des fonctions très précises dans l'économie du texte littéraire. Et c'est ça aussi qui l'amène à préférer évidemment écrire des nouvelles par rapport à des romans qui demandent un travail beaucoup plus long et un suivi extrêmement fatigant finalement.
Pour terminer cet entretien, j'aurais encore deux petites questions à propos de votre épilogue. Est-ce que vous pouvez expliciter la distinction que vous faites dans cet épilogue entre lecture créatrice et lecture historique ?
Oui. Alors ça me semble être un point extrêmement crucial, parce que je pense qu'il y a des malentendus dans ce qu'on appelle l'interprétation d'une œuvre. Beaucoup de textes des œuvres, celles de Kafka ou d'autres, disent que un texte peut s'interpréter de manière extrêmement différente, voire de manière infinie. Chaque nouveau lecteur peut interpréter à sa façon un texte. Alors, je pense que le terme interprétation, à ce moment-là, n'a pas le même sens que celui qu'on utilise dans les sciences sociales pour dire interprétation d'un texte au sens d'une lecture historique ou sociologique du texte. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les lectures habituelles des textes littéraires sont des lectures création. Les lecteurs lisent dans le texte des choses qui les concernent eux personnellement, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de projeter leurs problèmes personnels, la situation historique qui est la leur. Nous sommes au XXIe siècle, n'importe quel lecteur peut lire Kafka en pensant à des situations de vie personnelle, en pensant à l'Holocauste, en pensant à des situations dans les entreprises, en pensant... Tout est possible. Et c'est ça qui fait vivre, d'une certaine façon, les relectures, qui fait vivre l'œuvre de Kafka. Ce sont les relectures de l'œuvre qui permettent de la faire perdurer, d'une certaine façon. Il y a des lectures théâtrales, il y a des lectures extrêmement diverses de Kafka. Mais ce que fait l'historien ou le sociologue, c'est d'essayer de comprendre ce que l'auteur a fait. Comment il a construit ce texte et qu'est-ce que lui a projeté dans le texte. Pas ce que lui, en tant que lecteur, historien ou sociologue du XXIe siècle, peut dire de Kafka à partir de son point d'arrivée historique à lui. Pour moi, l'histoire ou la sociologie, ça consiste à se mettre à la place de l'auteur. C'est-à-dire à essayer de reconstruire toutes les contraintes qui pèsent sur cet auteur, et qui l'amène à écrire ce qu'il écrit comme il l'écrit. C'est une interprétation de l'œuvre qui est historique ou sociologique au sens où elle est articulée aux conditions historiques et sociales de vie et de création de cet auteur. Et c'est extrêmement différent de la lecture création, qui est tout à fait évidemment légitime, n'importe qui. La lecture par le sociologue ou l'historien n'annule pas ou n'interdit pas la lecture création. Mais elle me semble extrêmement précieuse pour ne pas laisser penser qu'une œuvre en elle-même est porteuse d'une infinité de significations. Non, des lecteurs peuvent de manière extrêmement variée, puiser dans une œuvre ce qu'ils veulent et l'interroger à partir de leur propre situation historique, mais l'œuvre en question, telle qu'elle a été créée, a des conditions historiques et sociales de création, et c'est cela que la lecture interprétative du sociologue ou de l'historien privilégie.
Dans ce même chapitre, lecture créatrice et lecture historique, dans votre épilogue, je vais vous citer un petit peu, vous écrivez « Voir en Kafka le prophète de toutes les horreurs administratives, bureaucratiques, nazis, fascistes ou communistes, c'est, faut-il le rappeler, inverser le cours logique et chronologique des choses. » Soit. Vous écrivez après « Mais Kafka, lui, ne faisait qu'expliciter et élucider l'existant. » Les rapports avec son père, l'exploitation et l'humiliation des employés et des ouvriers, la stigmatisation des juifs, etc. Là, la phrase est très importante, celle qui suit. Et nul doute qu'il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit comme il l'a écrit si le nazisme et ses méfaits avaient été sous ses yeux. Ma question la va porter sur cette dernière phrase. Elle est magistrale, cette dernière phrase. Et nul doute qu'il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit comme il l'a écrit si le nazisme et ses méfaits avait été sous ses yeux.
Oui, je pense que évidemment, on fait souvent une lecture de Kafka comme une sorte de prophète de ce qui malheureusement va arriver et va peser lourdement, y compris sur la famille Kafka, sur ses amis, etc. Pour ceux qui n'ont pas pu échapper au sort de nombreux juifs de l'époque. Je pense qu'on se méprend si on fait de Kafka un auteur qui a comme seule ambition de comprendre les situations administratives ou les situations de pouvoir au sens politique du terme. Ça n'est pas quelqu'un de politique au sens politicien du terme. C'est en revanche quelqu'un qui est en permanence à la recherche de la vérité sur les rapports interhumains qui sont des rapports de pouvoir. Et donc, je pense qu'il n'aurait évidemment pas écrit ce qu'il a écrit s'il avait vécu les horreurs du nazisme, parce qu'évidemment, là, ça s'est déployé, la haine antisémite et la violence d'État, etc., a été dans l'histoire extrêmement incroyable. Lui avait, dans son champ de vision, évidemment un antisémitisme qui existait à l'époque, mais tout ça n'a de sens que dans une période où les Juifs sont encore très bien traités. Ils viennent de sortir du ghetto, ils sont plutôt en réussite sociale. Son père a réussi en étant juif ce que ses grands-parents ne pouvaient pas réussir. Donc les Juifs sont plutôt mieux traités à l'époque de Kafka que dans les époques précédentes. La parenthèse historique ne va pas durer. Mais voilà, donc Kafka ne parle que de ce qu'il connaît. Et je pense que c'est sa sensibilité pour décrire et comprendre les situations de pouvoir, l'exercice de l'autorité, etc., ce qui est extrêmement présent dans son œuvre, fait que il n'aurait pas écrit effectivement la même chose en ayant devant lui les horreurs du nazisme.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Bernard Lahire.